Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, des téléphones pas très éthiques. Samsung accusé de faire travailler des enfants de moins de 16 ans dans ses usines. La branche française du géant coréen vient d'être mise en examen par le juge Van Ruynbeck. Information France Inter dans un instant. Deux femmes à la tête de l'Europe, une française patronne de la Banque Centrale et une allemande présidente de la Commission de Bruxelles. Nous serons à Berlin dans ce journal. Dans ce journal également, l'arrêt des traitements de Vincent Lambert qui a commencé hier pour la troisième fois. Portrait du médecin qui va mettre en œuvre la sédation profonde. L'association des victimes du terrorisme appelle les pouvoirs publics à rapatrier les enfants de djihadistes. Et puis pour finir, un braquage de rêve pour les amateurs de grand vin. 400 000 euros de grand cru dévalisés dans une cave parisienne.
Je vous rappelle que Léa Salamé reçoit dans 20 minutes à 7h50 Amélie de Montchalin. Elle est secrétaire d'État aux affaires européennes.
France Inter.
Samsung, donc, Sébastien, dans le collimateur de la justice française, c'est une information France Inter.
Le géant coréen de la téléphonie multiplie les discours sur la responsabilité sociale de son entreprise, intégrité, transparence, éthique, de jolis mots qui masquent toutefois une réalité beaucoup plus sombre. En Chine, en Corée et au Vietnam, les usines Samsung seraient loin de tenir leurs promesses en matière de droit du travail. Deux associations ont déposé plainte. Une procédure qui vient d'aboutir au mois d'avril dernier à la mise en examen de Samsung France pour pratiques commerciales trompeuses. Les juges français estiment en effet que ce non-respect des engagements s'apparenterait à une tromperie pour le consommateur. Les précisions de Corinne Audouin.
Cela fait 7 ans que les associations Sherpa et ActionAid dénoncent des violations dans les usines qui fabriquent des produits Samsung en Chine, au Vietnam et en Corée. Marie-Laure Guilin est responsable du contentieux à Sherpa.
Les ONG sur place ont constaté la présence d'enfants de moins de 16 ans, des horaires abusifs, parfois 12 à 15 heures par jour, et une réelle mise en danger des travailleurs puisque ceux-ci manipulent des produits extrêmement dangereux pour leur santé sans formation ou équipement adéquat. Les ouvriers dans les usines sont payés moins de 200 euros par mois pour assembler parfois près de 1600 téléphones par jour.
Sur Internet, la multinationale coréenne proclame pourtant son ambition de devenir l'une des entreprises les plus éthiques au monde. Des paroles en l'air ? Pas cette fois.
C'est la première fois en France que des engagements éthiques peuvent être considérés comme des pratiques commerciales. Le consommateur est de plus en plus regardant vis-à-vis de l'éthique de l'entreprise et il ne veut pas être, malgré lui, responsable de graves violations des droits des travailleurs sur la chaîne de production des entreprises multinationales.
Samsung France se défend en mettant en avant ses actions pour améliorer les conditions de travail chez ses sous-traitants. Face au juge Van Ruynbeck, le directeur juridique de la filiale a eu cette phrase étonnante. Samsung a toujours veillé à ne pas communiquer de manière exagérée sur l'éthique.
Samsung France mise en examen, une information de Corinne Audouin du service police-justice de France Inter.
Il est 7h33, il aura fallu 3 jours de discussions houleuses, Sébastien, mais c'est fait. On connaît les nouveaux visages de l'Union européenne.
Le Conseil des chefs d'État et de gouvernement européens a fini par se mettre d'accord hier soir sur les noms de ce qu'on appelle les top jobs, les 4 principaux postes européens, avec une grande nouveauté, la nomination de 2 femmes aux plus hautes fonctions de l'Union. La française Christine Lagarde, présidente du FMI, du Fonds monétaire international, qui va devenir la présidente de la Banque centrale européenne. Et puis l'allemande Ursula von der Leyen. Elle décroche le poste de présidente de la Commission de Bruxelles. Francophile, francophone, issue de la droite modérée, c'est une proche d'Angela Merkel. À Berlin, Ludovic Piétenu.
C'est une très jolie porte de sortie pour celle qui, depuis 2013, est la première femme à diriger la défense allemande et qui, politiquement, y a laissé énormément de crédit. Elle était vue comme la dauphine d'Angela Merkel à la chancellerie. Elle est aujourd'hui la ministre la plus impopulaire d'Allemagne. Et cela suffit pour devenir présidente de la Commission européenne. C'est agacé Martin Schulz, l'un de ses adversaires. Un social-démocrate, une façon de critiquer aussi le joli coup politique d'Angela Merkel, qui à défaut du candidat allemand Manfred Weber, issu de la CSU bavaroise, a réussi à imposer sa protégée, pur produit de la CDU, son parti. Ursula von der Leyen est une conservatrice très modérée, elle est mère de 7 enfants d'une famille aristocrate de Basse-Saxe, son père faisait de la politique, elle a grandi à Bruxelles, maîtrise l'anglais et le français.
L'Europe, c'est plus de solidarité. Et plus de responsabilités. La France et l'Allemagne, ce sont nos patries. Mais l'Europe, c'est notre avenir.
Ursula von der Leyen, extrait d'un discours de 20 minutes prononcé en français fin 2011 lors d'une convention de l'UMP. La voici, première femme à la tête de la Commission européenne, un poste clé que l'Allemagne n'a occupé qu'une seule fois. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Et puis ajoutons que la présidence du Conseil est attribuée au Premier ministre belge, le libéral Charles Michel. Et le monsieur diplomatie européenne sera l'actuel ministre des Affaires étrangères espagnol, le socialiste Josep Borrell. Le médecin de Vincent Lambert a donc de nouveau arrêté ses traitements hier. Le docteur Vincent Sanchez, qui applique ainsi la décision de la Cour de cassation de la semaine dernière, c'est le troisième médecin à prendre en charge le patient tétraplégique au sein de l'unité de soins palliatifs du CHU de Reims. Mais contrairement à ses prédécesseurs qui avaient abandonné face aux pressions, lui devrait accompagner Vincent Lambert jusqu'à la fin, Daniel Messager.
C'est un médecin en capacité morale d'aller jusqu'au bout. Il porte haut les valeurs déontologiques et je lui apporte mon soutien. C'est le docteur Éric Carigère, le premier médecin à avoir suivi Vincent Lambert, qui parle ainsi du docteur Sanchez. Ce dernier, selon toute probabilité, accompagnera Vincent Lambert jusqu'à son décès. Arrivé au CHU de Reims il y a 2 ans, très secret, il se soucie peu de son image, ne parle pas à la presse, il est légaliste. Il ira jusqu'au bout d'une décision validée par les juges, affirme une des sœurs de Vincent Lambert. Avant, il y avait eu le docteur Daniela Simon. D'origine roumaine, elle avait essuyé des insultes, des insinuations sur la légitimité de son diplôme. Elle n'avait pas mis en place un arrêt des traitements, tentant des procédures collégiales qui n'avaient jamais abouti avant de jeter l'éponge. Quant au docteur Carigère, bien que catholique pratiquant, il s'était lui aussi attiré les foudres des parents en entamant le premier arrêt des traitements en 2013, la mère profitant d'une absence d'information pour lancer la procédure juridique. Fatigué d'être traité de nazi et d'assassin, il s'était retiré en 2016. Reste donc le docteur Sanchez, celui qui, pour le neveu de Vincent Lambert, a fermé les écoutilles et fera juste son devoir de médecin.
Daniel Messager, toutes les vigilances orange pour les orages sont levées depuis cette nuit. Dernière conséquence en date des fortes précipitations des derniers jours. Un orage dans la soirée hier a provoqué en Savoie une coulée de boue, rendant inutilisable pendant plusieurs semaines une ligne TGV entre la France et l'Italie. C'est une autre information France Inter ce matin. L'Association française des victimes du terrorisme appelle au rapatriement des enfants de djihadistes, des enfants qu'il faut sauver, selon Guillaume Denoy de Saint-Mahar, le directeur et porte-parole de l'Association française des victimes du terrorisme.
On sait que dans ces camps, puisque nous sommes déplacés dans ces camps, les conditions de vie sont exécrables. Ces enfants n'ont pas choisi, leurs parents ont choisi, mais eux n'ont rien choisi, ils ont subi. Et il faut tout faire pour que ces enfants puissent être sauvés et ensuite accompagnés, éduqués et les ramener dans la société, ce qui va pas être simple non plus, mais en tout cas, leur vie ne peut pas être la vie là-bas. Je comprends tout à fait que ces enfants fassent peur. C'est un sujet qui est éminemment complexe, dans lequel on parle de l'être humain avec tous les traumatismes, voire l'endoctrinement que ces enfants ont reçu. Suivant les âges, d'ailleurs, je dirais que le problème n'est pas forcément le même. C'est effectivement dangereux, mais c'est encore plus dangereux, je pense. Et nous pensons dans l'association que c'est encore plus dangereux de les laisser là-bas. Il faut tout faire pour arriver à ce que ces enfants puissent reprendre une vie normale. Tout faire pour éviter qu'ils deviennent aussi des dangers dans le futur. Mais je crois que c'est encore pire si on les abandonne sur place.
Guillaume Denoy de Saint-Mahar au micro de Sophie Parmentier.
Il est 7h39, de moins en moins de trésorerie publique dans les campagnes. La réforme des impôts, Sébastien, est loin de faire l'unanimité.
Oui, après le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement avait promis de rapprocher les services publics des territoires, mais l'engagement paraît déjà compromis car des dizaines de trésoreries, en effet, s'apprêtent à fermer, notamment dans les cantons ruraux. Une réforme qui inquiète l'Association des maires de France et les syndicats, mais que tentent de défendre sur le terrain les directeurs des finances publiques. Delphine Simon.
Certes, des trésoreries vont fermer, mais à la place, explique la note de Bercy, 500 points de contact de proximité vont être créés, par exemple, dans des maisons France Service. L'agent d'accueil y sera formé par la direction des finances publiques. Sauf que le service ne sera pas le même, explique à la CGT Emmanuel Planck. Elle dénonce un démantèlement des finances publiques.
Le plan du ministre, c'est de mettre des points d'accueil, c'est-à-dire non pas des services publics avec des fonctionnaires d'État des finances publiques de pleine compétence, mais bien des points d'accueil multiservices en quelque sorte. C'est une façon d'habiller la fermeture des services publics tels qu'ils existent maintenant.
L'avantage d'Ibercy, c'est que chacun aura accès à un service public de meilleure qualité à moins de 30 minutes, mais en Seine-Maritime, 46 trésoreries vont fermer, remplacées par 17 services de gestion comptable. De quoi inquiéter plus d'un élu local, à l'image de Laurent Jacques, le maire communiste du Tréport.
Tout passe par la trésorerie, et c'est la trésorerie qui émet les factures. On l'a notamment dans la facturation des cantines, dans la facturation des centres de loisirs, des écoles de musique. Il y a une quantité de pièces comme ça qui passent par les trésoreries qui vont nous retomber sur le dos.
Des élus qui réclament aussi la transparence sur les suppressions d'emplois. Une question qui, à en croire le guide envoyé par Bercy, risque d'attendre le prochain projet de loi de finances.
Allez, on termine avec un grand cru du braquage des bouteilles de Pétrus volées dans les caves de la maison Rostand, un grand restaurant parisien à Butin, à plus de 400 000 euros, Emmanuel Leclerc.
C'est le sommelier du restaurant qui a d'abord vu une bouche d'aération ouverte en descendant au sous-sol et a trouvé ça suspect. Ensuite, il a vu ce trou de 50 cm de diamètre dans la cave, actuellement en travaux, et puis un sérieux problème dans le rayonnage des plus grands crus du restaurant. Près de 150 bouteilles envolées, des Romane Conti, des Pétrus, du champagne millésimé. Les voleurs étaient de fins connaisseurs. Ils ont pu faire passer les bouteilles dans le petit tunnel qui débouchait sur des parties commune discrète d'une résidence voisine. C'est comme s'ils avaient agi sur commande, commente un proche de l'enquête, comme s'ils avaient un fourgue, un receleur qui a déjà payé cash par avance. Tous les employés de la maison Rostand, les ouvriers et le voisinage étaient entendus hier, les vidéos du quartier récupérées par les enquêteurs. En 2009, il y avait eu une série de braquages en l'espace d'un mois dans la capitale, du Tournier et Diard. Et déjà, Michel Rostand s'était fait siphonner une partie de leur cave. Et plus récemment, en 2017, près de 700 000 euros de flacons de grand whisky dans la cave de la maison du whisky à Paris avaient été dérobés.
Voilà, des noms à faire rêver, mais qu'il ne faut pas pour autant voler, Nicolas.
Merci.